1 Timothée chapitre 4, on va lire tout le chapitre en fait. Hein. Verset 1, il dit « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On a vu un peu que Paul, dans le début de cette épître, organise l'Église. Hein, on avait parlé des anciens, des diacres, que chacun a un rôle aussi à faire dans cette Église. Et là, il va lui donner un peu du commandement, enfin des aides pour devenir ce jeune pasteur qu'il est. Mais je pense que les conseils qu'il va donner à Timothée sont aussi valables pour chacun d'entre nous. Et donc, il va en fait parler de la doctrine et de la vie pratique. Tout à l'heure, on parlait de l'amour. Alors, je vais un peu reprendre ce qu'il disait. Qu'est-ce que c'est qu'aimer son prochain? Si je ne connais pas la Bible. Parce que si j'aime mon prochain comme le monde, donc toi, je t'aime pas, poum, je t'ai aimé là. Donc, avant de vouloir même aimer, on va dire, en pratique, il faut que je sache comment aimer. Alors, il l'a dit, Jésus m'a aimé. Dieu a aimé Jésus, etc. Donc, j'ai là de la doctrine qui me permet de savoir comment je vais aimer. Puis la Bible me dit d'aimer mon prochain, mais d'aimer aussi mon ennemi, parce que aimer ce qu'on connaît, c'est facile. Donc vous voyez qu'avant même de vouloir me mettre à aimer, il faut que je sache ce que Dieu veut, et définit comme l'amour. Et donc c'est pareil, dans ma vie de chrétien, souvent on veut beaucoup de pratiques, de pratiques, de pratiques, mais toute pratique s'appuie d'abord sur la doctrine. Je ne peux rien faire sans savoir ce que Dieu veut. Et là, quelqu'un écrivait, en parlant de la Bible, comme un mode d'emploi de la vie pratique chrétienne. Alors, imaginez que vous venez de vous acheter un beau meuble Ikea. Vous êtes déjà arrivé ? Alors, un autre meuble, hein, d'une autre marque, hein, si vous voulez bien. Hein. Et c'est l'heure de le monter. Hein. Ça, c'est pour nous les hommes, hein, souvent. Devant moi, alors j'ai les différentes planches, les clous, les vis, hein, et enfin le plan. Alors, il y a deux manières de monter mon meuble Ikea. Soit je peux faire semblant de connaître le mode d'emploi. Hein. Je suis un homme quand même, les gars. Moi, je sais monter sans plan. Dans ce cas, je vais monter le meuble, mais il risque d'être souvent de travers. Pourquoi ? Parce que j'ai cru savoir comment monter le meuble sans plan. Quand c'est une petite étagère, ça va, mais quand c'est des gros meubles, souvent, c'est assez abstrait à la fin. Alors, je croyais pouvoir le monter, et finalement, j'étais un peu imbu de moi-même, et j'abandonne des fois. Deuxième chose, j'ai écouté les conseils des autres, par exemple. Hein. Des fois, il y a des gars à côté de moi qui disent comment il faut faire pour monter le meuble. Et ils n'étaient pas plus connaisseurs que moi, et ils croyaient savoir. Et finalement, le meuble est plutôt abstrait. Puis troisièmement, j'ai pensé que cela serait plus facile et plus rapide, parce que moi, je n'aime pas faire des efforts. Je me dis, au lieu de prendre le temps, de compter les vis, de lire le plan, je vais essayer de le monter avec mes forces, avec ma connaissance, et au bout, finalement, mon meuble, c'est rare qu'on y arrive, il est bizarre. Je ne sais pas si vous comprenez la métaphore. Soit je peux lire le mode d'emploi et l'étudier. Le résultat, mon meuble est monté correctement, et je n'ai pas perdu de temps, surtout. Et puis, je réjouis la personne qui a aussi fait le mode d'emploi, hein, parce qu'il a pris du temps pour le faire, pour que je puisse obéir à ce mode d'emploi et monter mon meuble. Je ne vais pas faire de la pub pour Ikea, mais à la fin, il est bon. Donc, il y a deux façons, en fait, de monter ce meuble. Vous comprenez la métaphore vis-à-vis de la vie chrétienne. Soit j'essaie de la monter, avoir une vie pratique avec ma force, avec mon intelligence, ou en me basant sur les autres, qui n'ont pas plus de connaissances, soit je vais vers le plan. Et le plan, c'est la Bible. Il continue de dire, le monsieur, ce meuble, c'est ma vie chrétienne pratique. Je dois la construire et personne ne le fera à ma place. J'ai un mode d'emploi, la Bible, pour m'aider dans ma vie. Cette Bible parle de la saine doctrine. Chaque point doctrinaux, c'est-à-dire les étapes, les clous, les vis, est nécessaire à la construction de ma vie. Il me faut donc les lire et appliquer. Pourquoi ? Parce que des faux docteurs, et c'est ce qu'on va voir un peu dans cet chapitre de Timothée, parce que des faux docteurs viendront m'apprendre leur fausse doctrine, et cela conditionnera la pratique de ma vie. Ma vie chrétienne sera alors déformée, comme ce meuble qu'on veut monter avec nos propres forces. Je désire avant tout une vie chrétienne épanouie dans sa pratique quotidienne. Donc il y a deux manières de vivre la vie chrétienne, et surtout dans cette partie pratique. Soit je sais tout, ou je crois tout savoir, et j'agis. Et en fait, je ne lis pas la Bible, je ne vais pas vers le plan, et souvent, ben, je m'écroule. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde évangélique un petit peu. Soit je m'arrête, et je vais aller lire le plan, et je prends le temps de l'étudier. Je ne sais pas si vous avez déjà mis vos vices et tout ça, qu'on a plein, c'est long. Il faut revoir les mêmes vices. Ça me saoule des fois, mais il faut le faire. On gagne du temps comme ça. C'est la même chose. Si je veux savoir comment vivre ma vie pratique, il faut que j'aille vers le plan et vers la Bible. Et on va voir un petit peu ça ce matin, et j'aimerais vous faire aimer, alors je ne sais pas si on peut, ou vous pousser à apprendre et à conserver cette saine doctrine que Paul est en train de dire à Timothée de conserver aussi. On va voir trois choses, les faux docteurs et leur mauvaise doctrine. On pourrait parler longtemps, mais bon. Le bon ministre aussi, parce que lui, il est appelé à défendre la doctrine, mais un peu chacun d'entre nous aussi. Et puis l'enseignement de cette saine doctrine. Alors, Paul parle de ces faux docteurs et de leur mauvaise doctrine. Et il dresse là un peu leur caractère. D'abord, il dit que ce sont des hypocrites. Il est dur quand il y va. En fait, un hypocrite, c'est quelqu'un qui dissimule la vérité, mais bien souvent pour son propre intérêt. Il y a beaucoup de faux docteurs aujourd'hui qui existent et leur intérêt, c'est l'argent. Je vous dis des choses, faites ces choses, mais vous payez aussi, sinon Dieu ne va pas vous bénir. Il dit, ils portent la marque de la flétrissure. L'idée, c'est que leur âme est stigmatisée par le péché. C'est vraiment au fond de leur âme et ils vivent, ils agissent comme cela, mais à partir du péché. Le diable, c'est quelqu'un qui cherche aussi à tromper. C'est la première chose qu'il va faire. Il essaie de tromper au maximum. D'abord, peut-être en créant des fausses doctrines, ou alors en disant, n'étudiez pas la Bible. Ne prenez pas le temps de l'étudier. Comme ça, vous perdrez de toute façon. Soit il crée des fausses doctrines, soit il pousse à dire que on n'a pas besoin de doctrine pour vivre notre vie chrétienne. Il est malin, non ? Il est malin. Mais on peut jouer son jeu aussi. Et ces faux docteurs pensent souvent tout savoir sans avoir étudié. C'est ça qui est intéressant. Moi, je n'irai jamais dire à un prof de maths, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis nul en maths, donc... Mais c'est la même chose. Il y en a qui croient savoir, qui s'auto-proclament, je ne sais pas quoi, prophètes, etc. Ils n'ont jamais pris le temps de même lire la Bible en entier. Et ça, c'est triste. Ils se trompent eux-mêmes, mais en plus, ils vont influencer les autres et les tromper. Et ça, c'est grave. On voit aussi là les actes des faux docteurs. Alors, il est dit qu'ils abandonnent. Alors, le grec veut dire qu'ils quittent ou qu'ils s'éloignent de la foi. En fait, ils s'éloignent de la vraie foi, de la foi qui est basée sur la saine doctrine. C'est une foi qu'ils s'inventent eux-mêmes. Ils s'attachent aussi à des esprits séducteurs. Le mot signifie des esprits qui sont des imposteurs ou vagabonds. On fait un peu ce qu'on a envie. Voilà. Mais il y en a qui sont comme ça. Ils s'attachent même, et là il va loin, en disant à des doctrines de démons. Il y a des gens dans l'Église qui enseignent, influencés par le diable. C'est ce qu'il est en train de dire là. Vous vous rendez compte ? C'est grave. Parce qu'ils croient tout savoir, parce qu'ils sont autoproclamés, parce qu'ils font ce qu'ils ont envie. Mais c'est ce qu'il est en train de dire là. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. Et il répond aux gens quelque part aussi, parce que dans 2 Timothée 4, 3, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » On y est aujourd'hui, on y est. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ah, toi tu me plais parce que tu corresponds à ce que j'ai envie. Voilà. Parce que apprendre la Bible, à lire, ça me saoule un petit peu. Mais ce que tu dis, c'est bien là. C'est très bien. Donc finalement, ces faux docteurs trouvent aussi un public. Et de plus en plus, d'ailleurs, parce que ces faux docteurs offrent des choses simples à faire, des fois des choses compliquées, on va voir aussi, dans l'autre sens. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux docteurs, et il y a beaucoup de public pour ces faux docteurs. Si personne les écoutait, ils n'existeraient pas. Si personne leur donnait de l'argent, et de l'argent, et de l'argent, ils n'existeraient pas. C'est aussi la faute, on pourrait dire, du public qui les écoute et qui les suivent. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la Bible. C'est bien triste. Alors, on peut voir un peu les erreurs de ce faux docteur. Hein. Il ne rentre pas dans le détail, mais il donne au moins deux choses à l'époque. Hein. D'abord, il dit qu'il ne faut pas se marier. Il faut comprendre un peu l'arrière-plan, c'est une forme d'ascétisme. Il y avait plusieurs formes d'ascétisme. Certains disaient qu'il ne fallait pas se marier, parce que tu vas rester pur comme ça, spirituellement. D'autres disaient, et c'est là où c'est le sujet de 1 Corinthiens 7, « Mariez-vous, mais vous n'avez pas de rapport sexuel, parce que c'est mauvais. Mariez-vous, mais sans rapport. Hein, » etc. Ou alors d'autres qui imposent le célibat. Alors, il y a plusieurs formes d'ascétisme. Là. Mais en fait, ils demandent des choses à ces gens-là que la Bible ne demande absolument pas. Certainement qu'il parle là d'une secte. Hein. Il y en a qui pensent qu'il pensait aux Esséniens, qui étaient à Qumran, deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et eux prescrivaient l'abnégation physique, parce qu'ils voulaient vivre une vraie spiritualité, une plus grande spiritualité peut-être que l'Église banale. Et donc, beaucoup de rejet du corps, de certaines choses que Dieu veut même pour nous-mêmes. Et ils disent aussi s'abstenir d'aliments qui ont été créés par Dieu, parce que pour eux, le corps, c'est mauvais. Ils étaient là à vouloir simplement garder la partie spirituelle de l'être humain et de vouloir absolument la rendre de plus en plus spirituelle. Mais ça, Paul dit, c'est une secte, c'est des faux docteurs. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Leur erreur est donc de renier la parole de Dieu, parce que Dieu pousse à se marier. Dans 1 Corinthiens 7, il dit, si tu as des désirs, ben, marie-toi. Donc Dieu est d'accord pour le mariage. Ça vous rassure ? Moi, ça me rassure, en tout cas. Mais voilà, il veut que les gens se marient plutôt qu'ils brûlent et qu'ils fassent n'importe quoi. Donc, cette fausse doctrine de ces gens-là, à ce moment-là, de ne pas se marier ou de se marier sans sexe ou de ne pas du tout se marier, ben moi, je pense souvent aux prêtres qui ont des combats terribles dans leur vie et qui, finalement, font des grosses bêtises parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Hein, si tu as des besoins, marie-toi, et c'est tout. Et Dieu est d'accord avec ça. Mais on veut être plus spirituel. On veut être beaucoup plus spirituel. Tout a été créé bon. C'est la Genèse qui le dit au chapitre 1. Dieu a tout créé bon. Formidable quand on y réfléchit un petit peu. Souvent, nous, on va mettre un peu notre grain de sel là-dedans. Mais c'est l'homme qui en fait un mauvais usage, souvent. Dans Matthieu 15, 11, il dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, on pourrait dire. Mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme. C'est ce que moi, je vais faire avec ce qui était bon et ce que Dieu a considéré comme bon. » Dieu peut considérer quelque chose de bon, et moi je vais dire non, c'est pas bon, parce que je veux être plus spirituel. On est tordu, hein. On est tous comme ça quelque part. Hein. On parle pas là que des faux docteurs, mais on a tendance à être comme ça des fois. Ou on va tomber dans une forme de légalisme aussi. Dieu a tout créé bon, il a créé les aliments. Pourquoi il a créé les aliments? Il va dire, je les crée, mais les mangez pas. Alors, on peut pas tout manger, hein. J'ai jamais essayé de manger un dinosaure, mais... Il a créé les aliments pour que ça soit pris avec action de grâce. C'est-à-dire que quand je mange, finalement, je me dis, je suis quelqu'un de privilégié, j'ai la chance de pouvoir manger. Alors, nous, d'autant plus en France, on a la chance de manger tous les jours. Il y en a d'autres qui ont moins cette chance-là. Dieu a créé le mariage, il a créé les aliments. Tout ça, c'est pour notre bonheur. C'est pas pour nous créer et imaginer un tas de choses. Et en même temps, pour sa gloire. Hein. Dans 1 Corinthiens 10, 31, il dit... Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi qu'on fasse, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Ah, vous n'avez jamais dit, en mangeant un petit McDo, là, tiens, je peux faire ça pour la gloire de Dieu. Hein. Alors, c'est pas parce que vous mangez le McDo, hein, je fais beaucoup de pub ce matin, hein, mais c'est parce que je peux dire merci à Dieu pour cet aliment que je reçois aujourd'hui. Alors, mangez pas trop de McDo non plus. Hein. Il dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Pourquoi sanctifier par la parole? Tout simplement parce que la parole le dit. Dieu dit dans sa parole, le mariage c'est bon, les aliments sont bons, tout, Dieu a créé tout bon. Donc c'est déjà sanctifié simplement par la parole de Dieu. Et en même temps, nous on prie, on demande à Dieu que ces aliments nous fassent du bien, hein, ou qu'on bénisse notre mariage. On a tous demandé ça, normalement. Alors, vous n'avez jamais demandé que vous soyez maudits pendant votre mariage, on est bien d'accord. Mais voilà. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Et tout ça, ça doit nous pousser à l'action de grâce. Je crois qu'on mange bien souvent très vite, sans se souvenir que c'est un privilège de la part de Dieu. Ça nous permet même de manger tout ce qu'on veut. Alors en France, on a la chance de pouvoir le faire. Mais est-ce qu'on pense à remercier Dieu, avoir ces actions de grâce et dire merci Seigneur? C'est ça être spirituel. C'est pas se priver de quelque chose, mais c'est plutôt de reconnaître que Dieu nous donne tout et qu'on peut le manger. C'est ça être spirituel, rendre grâce à Dieu. Pas se priver, c'est bien dommage. Et pareil pour le mariage. Donc, dans cette première partie, Paul dit à Timothée que les faux docteurs, dans la plupart, en tout cas, servent le diable. Tout simplement parce qu'ils détournent la vérité, ils détournent les chrétiens de la saine doctrine et va pousser à faire des pratiques que Dieu n'a jamais demandées dans la vie du chrétien. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible et la connaître en entier avant de se mettre en marche. Et puis, il va s'intéresser à Timothée dans une deuxième partie, hein, ce bon ministre qui est appelé à défendre la saine doctrine. Alors, oui, il est appelé lui, mais je pense que quand on parlait de témoignage tout à l'heure, il y a l'amour, ouais. Mais je pense qu'il faut aussi défendre ce qu'on croit. Et on va discuter de notre foi avec quelqu'un, et peut-être comme on a vu ce vendredi, on se retrouve devant un type de gens différents, et comment je vais apporter l'évangile. Il parle de ce bon ministre, en parlant de Timothée. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est noble, c'est quelqu'un qui est admirable, c'est quelqu'un qui est excellent. Donc ça, c'est pas juste son abo, hein. C'est quand même, il y a une noblesse là-dedans, dans ce ministère ou dans ce travail. Et puis le mot ministre, ça rejoint le mot diakonos. C'était quoi qu'on avait vu la semaine dernière ? Diacre. Waouh, c'est bien ça. Mais c'est pas dans le sens technique de diacre, là, c'est plutôt dans le sens général, parce que j'avais dit que le mot diakonos est employé dans plusieurs mots, hein, ministre et d'autres trucs. Donc soit un bon ministre, soit un serviteur, mais qui a de la noblesse. Voilà. Ça, c'est être un bon chrétien, avoir de la noblesse. Et Paul montre à Timothée comment il doit se conduire face aux menaces des faux docteurs. Lui-même doit d'abord se nourrir des paroles de la foi. Lui, hein, il ne dit pas aux autres, il dit d'abord au pasteur, à ce jeune pasteur. Toi, tu dois d'abord te nourrir des paroles de la foi. C'est quelque chose qui doit être régulier. Tu dois prendre le temps d'étudier la Bible, de la lire pour la connaître, pour ensuite dispenser la saine doctrine. Il doit se nourrir de la bonne doctrine. Il doit donc l'étudier, l'approfondir pour ne pas se tromper. Ça, c'est la pire des choses que j'aimerais pas qu'il m'arrive un jour, c'est de me tromper, parce que j'ai pas tout lu, parce que j'ai pas assez étudié. Et je pense que c'est valable pour tout le monde aussi, de donner un conseil à quelqu'un et se rendre compte 10 ans après que je lui ai donné de mauvais conseils. Bon, Dieu est plein d'amour et de compassion, et puis la personne est aussi responsable d'aller voir si votre conseil était bon. Parce que si vous me donnez un conseil, moi je vais voir d'abord dans la Bible, hein. Après on en reparle. Mais bon, hein, et c'est surtout pour le pasteur, pour ceux qui enseignent. Il doit aussi dénoncer, mais aussi enseigner positivement et vivre en pratique la vérité. Hein, ce n'est pas qu'une question d'enseigner, il doit lui-même aussi le vivre au quotidien. J'avais vu sur Facebook, là, il y a quelqu'un qui avait mis l'image des faux docteurs actuellement. Et quelqu'un avait posé une question, je trouvais ça intéressant. Pourquoi vous mettez que les faux docteurs et vous ne mettez pas les bons docteurs ? Ah oui. Alors j'ai réfléchi, et c'est en fait tout à l'heure que la réponse m'est venue quelque part, mais tout simplement parce que la Bible demande de dénoncer les faux docteurs, pas de faire la pub des bons docteurs. Enfin, si vous en connaissez, allez-y. Hein. Maintenant, après, chacun va dire aussi ce qu'il pense. Mais Timothée est appelé à enseigner, mais aussi à pratiquer cette vérité, cette saine doctrine, pour pouvoir la défendre. Il doit dénoncer les faux docteurs, et c'est Paul qui le dit. Alors, c'est pas aller voir quelqu'un comme ça, sans aucun amour, sans machin. Toi, t'es un faux docteur, dégage. C'est pas ça qu'il est en train de dire, on se comprend bien. Mais il doit les dénoncer, et il doit savoir exposer les choses. Hein. Le bon ministre dénonce les erreurs des faux docteurs. Il ne le fait pas pour embêter la personne, mais il fait pour protéger son troupeau, par amour pour ses fidèles. Hein. C'est pas pour embêter. Souvent, le troupeau, on va dire « Ah, pasteur, gna 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 ». Mais il le fait parce qu'il aime son troupeau. C'est pas pour embêter les gens. Parce qu'un jour, de toute façon, si c'est pas lui qui le fait, ça sera Jésus-Christ qui le fera. Mais là, on pourra rien dire. Et ça sera trop tard. C'est le rôle de Timothée, à ce moment-là, de reprendre ses faux docteurs, voire de les chasser de l'Église, s'il faut, parce qu'il raconte n'importe quoi. Même s'il est contesté. Il sera souvent contesté. Quelqu'un a écrivait, c'est MacArthur, hein, un auteur très connu, par rapport à la prédication doctrinale qu'il y a aujourd'hui. L'incapacité de penser de manière biblique et théologique a coûté cher à l'Église, car elle a permis l'infiltration d'erreurs de toutes sortes. Ce qui, en conséquence, l'a jetée dans la confusion et l'a affaiblie. Vous allez dans l'église aujourd'hui, vous posez 2-3 questions, plus personne ne sait quoi répondre. C'est vrai, le diable, il est malin. On a remplacé la prédication doctrinale, solide, par une qui est dénuée de conviction et qui se caractérise par un enseignement dilué, des platitudes et une faible théologie. Résultat, confusion charismatique, l'envahissement psychologique, le mysticisme et même des influences psychiques et occultes. En effet, les pasteurs qui ne raisonnent pas de manière critique et ne prêchent pas avec conviction sont directement responsables d'une grande partie de ce chaos. Beaucoup trop de pasteurs ne parviennent pas à trancher entre la vérité et l'erreur, ni à édifier leur assemblée dans la riche et saine doctrine de la parole de Dieu. On dit souvent d'ailleurs de ces piètres prédicateurs qu'il compense en ayant ce qu'on appelle un cœur de pasteur. Cependant, le cœur d'un pasteur ne se reconnaît pas à son aptitude à cajoler les brebis, mais à l'efficacité avec laquelle il les protège des loups et les nourrit afin qu'elles croissent en maturité et en force. Un bon berger, ce n'est pas quelqu'un qui vous fait des guilis. Il le fait des fois, par un temps. Mais un vrai berger, si vous allez en suivre un vraiment, c'est quelqu'un qui est très sévère avec ses brebis aussi, hein, parce qu'ils vont faire n'importe quoi des fois. Il y en a même qui cassent les pattes parce que la brebis ne veut pas se laisser faire. Alors je ne vais pas vous casser la patte, je vous rassure tout de suite. Mais c'est le rôle de Timothée et c'est le rôle des pasteurs de savoir être clair par rapport à la vérité et de l'afficher clairement, même si ça ne plaît pas en face, même si on vous insulte, tant pis. Au moins, il n'y aura pas à rougir. Après, si on vous reprend, prenez le temps de réfléchir aussi. Hein? C'est ça que si quelqu'un vous reprend, prenez le temps de réfléchir. Il doit aussi repousser les contes profanes, hein, les contes absurdes de vieilles femmes, hein, parce que. Alors les contes, c'est tout ce qui est fable, fiction, les mythes, hein, que des fois on mélange dans la prédication ou dans la doctrine. Ce qui est profane, c'est ce qui est accessible, profane, qui peut être foulé légalement, ça n'a aucune valeur en fait. Et puis il dit vieille femme, bon, il y en a qui traduisent autrement, c'est plutôt des contes absurdes. Le mot est une seule fois en grec, donc on appelle ça un apax. Donc c'est très difficile de donner une vraie définition. Hein. Mais on pourrait dire que c'est des contes qui sont absurdes comme les contes de vieilles femmes. Il faut savoir qu'à l'époque, cette épithète était en fait employée dans les cercles de philosophie, hein, pour exprimer en fait le mépris quant à une opinion qui manquait de crédibilité et qui était susceptible donc de ne pas être partagée avec les autres. Hein. C'était quelque chose de simplet. Et donc on utilisait ça, un conte de vieilles femmes. Et à l'époque, aucun homme intelligent n'y prêtait l'oreille. En fait, c'est quelque chose qui n'a absolument pas de valeur. Par contre, il y en a de plus en plus de contes de vieilles femmes, on pourrait dire, dans la doctrine aujourd'hui, hein, ou mélangés avec la doctrine. En fait, il dit, tout ce qui n'est pas biblique, tu rejettes. Parce que tu vas perdre ton temps à parler de fables, etc. Hein, il y en a qui ont des idées, des fois. Je ne sais pas où ils vont chercher ça, mais ce n'est pas la peine de perdre son temps avec ça. Ou moins, va voir dans la Bible s'il dit vrai, mais s'il dit pas vrai, laisse tomber tout simplement. Mais ça demande un effort, ça demande du temps, ça demande de la lecture, ça demande de l'étude. C'est pas simplement dire « je crois pas ». Enfin, je pourrais vous poser peut-être une question doctrinale là, et je vous coincerai aussi, parce que vous n'avez pas étudié encore cette chose-là. Non, je vais pas le faire, hein, je suis gentil. Mais chacun d'entre nous, on est appelé à prendre le temps, voir savoir si c'est un conte profane ou si c'est vraiment de la Bible. Ce Timothée doit conduire dans la saine doctrine. Et il s'exerce à la piété. Hein. Il doit s'exercer à la piété. Alors le mot exercer, pour ceux qui sont un peu sportifs, c'est gymnasio, gymnase. Hein, ça reprend le mot gymnase aujourd'hui. En fait, il doit s'exercer comme quelqu'un qui est un athlète et qui a un entraînement rigoureux. Hein. C'est pas je suis chrétien, je vis ma vie chrétienne tranquille. Il y a du travail là-dedans. Il va au gymnase, on pourrait dire spirituel. Il doit s'entraîner spirituellement parce que lui-même doit d'abord former son homme intérieur. Hein, ce n'est pas que les autres, le pasteur aussi a besoin de se former intérieurement et de grandir spirituellement. Il doit s'exercer à la piété, c'est le respect pour tout ce qui revient de droit à Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu mérite de notre part, et vivre la piété, c'est justement lui rendre ce qu'il mérite par notre respect, par notre vie, etc. On est loin d'être parfait, on est bien d'accord, mais on veut y tendre en tout cas. Et il dit l'exercice corporel est peu de choses. Ouais, moi j'aime ce passage. On n'a pas besoin d'être sportif. C'est ce qu'il dit. Moi, je ne pense pas ce qu'il est en train de dire ça. Hein. Je pense que l'exercice est bon aussi, à condition qu'on ait le temps et qu'on soit capable. Mais ce qu'il veut faire, c'est une comparaison. Hein. L'exercice physique a des résultats, certes, mais avec une portée et une durée qui est limitée. Hein. J'ai fait mon petit jogging depuis il y a 3 ou 4 mois. J'ai dû arrêter pendant 2 mois à cause de l'hiver. J'ai repris mes kilos. Ça, c'est efficace pendant un temps, regardez pas, hein. C'est efficace un temps, mais c'est pas suffisant, on pourrait dire. Par contre, l'exercice de la piété, il dit, ça a un effet dans la vie présente, mais ça a une portée éternelle aussi. Hein, donc vous voyez la comparaison. Et en plus, si je vis pieusement, ça va avoir un impact sur les autres. Les abdos à moi n'ont jamais fait convertir quelqu'un. Hein, je n'ai jamais montré non plus, heureusement d'ailleurs. Mais il dit, l'exercice physique touche le corps. Oui. Mais la piété va obligatoirement toucher le corps, parce que ma façon de vivre va aussi impliquer mon corps et comment j'en prends soin, et en même temps va prendre soin de mon âme. Ça touche les deux parties. Et c'est beaucoup plus efficace puisque ça a une efficacité dans le temps. Alors, continuez à faire du sport, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire là. Mais pensez aussi à la piété et à la mettre en même action, on pourrait dire, que le sport. Hein. Si je fais mon jogging 3 fois par semaine, je peux lire au moins 3 fois par semaine ma Bible. Ou prendre le temps de prier. Il faudrait faire plus que 3 fois. Bon, enfin bon, ça c'est pour les grands sportifs. Et donc, lui veut, comment dire, faire travailler à l'intérieur des gens pour que ça ait un effet durable et pas un effet limité. Il dit, il faut travailler et combattre pour notre espérance. Travailler, c'est pas juste le travail, hein, les 35 heures et on rentre. Le mot veut dire, c'est l'idée d'un travail qui va jusqu'à l'épuisement. Vous êtes prêts à servir Dieu ? Je pousse pas jusque-là, mais jusqu'à l'épuisement, dans le sens d'être persévérant, de pas s'arrêter, hein, de vouloir défendre cette saine doctrine jusqu'au bout. Même si ça engendre des fois des combats, ça engendre un tas de choses. Hein. C'est pas toujours simple. Hein. Travailler et combattre, il dit aussi, c'est entrer dans la bataille, mais pas comme on pourrait entrer dans une guerre, mais parce qu'il y a de l'espoir derrière. Quand nous, on se bat pour la saine doctrine, il y a un impact forcément, à salut même, pour la plupart des gens. Des fois, on connaît des gens qui ne pensent pas comme nous, et on n'ose pas en parler parce qu'on a peur de « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils ne vont plus être amis, etc. » Ok, bah, tant pis. Si vous n'êtes plus copain avec moi parce que je vous dis la vérité, je suis désolé, ça me décevra évidemment, mais tant pis, voilà, tant pis, c'est comme ça. Un jour on sera devant Dieu, il faudra répondre de cela. Mais c'est entrer dans la bataille, et ça c'est toute l'Église aussi, je pense qu'il faut qu'il le fasse, parce qu'il y a de l'espoir au bout, parce que la saine doctrine produit de bonnes choses, pas les choses qu'on voit aujourd'hui. Parce que ces milliers de chrétiens dans les églises, est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau ? C'est ça la vraie question, est-ce qu'ils sont nés de nouveau ? Et est-ce qu'on seulement on y pense à ça ? Ou alors, ben, on chante bien, on danse bien, on fait un tas de choses, mais on ne pense pas que les gens ne sont pas sauvés. C'est quand même bête de venir dans une église et pas entendre un jour qu'il faut être né de nouveau, non ? C'est triste. Il y a des émotions, il y a un tas de choses, oui, mais la plupart des choses manquent finalement. Travailler et combattre, parce que nous mettons, nous, notre espérance dans le Dieu vivant et pas dans les faux docteurs. C'est pas en moi qu'il faut mettre votre espérance. Hein. C'est pas en moi qu'il faut regarder comme modèle. C'est là-haut qu'il faut regarder. C'est Dieu qui est cette espérance pour chaque chrétien. Car Dieu est sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alors il ne parle pas là d'universalisme, hein, c'est-à-dire que tout le monde sera sauvé au bout. Parce qu'il y en a qui le pensent. Hein. L'Église protestante, par exemple, aujourd'hui dit que Dieu est tellement plein d'amour que finalement personne n'ira en enfer. Protestante, hein, j'ai l'article en haut. C'est grave quand même. Je ne sais pas s'ils n'ont pas lu la Bible, mais ils ont la même Bible que moi. Non, Dieu ne sauvera pas tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il sauvera tous les hommes qui ont cru, qui ont accepté qu'ils sont pécheurs, qui ont accepté qu'ils étaient perdus, qu'ils ont accepté qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ, qui a pris leur place, hein, et qui persévèrent ensuite. Hein, parce que persévérer démontre que je suis vraiment né de nouveau. Donc c'est ces gens-là qui seront sauvés. Mais en travaillant, en combattant, hein, parce qu'on a cette espérance au bout, eh ben, Timothée et Paul ben, disent ben, « bossez, bossez, parce qu'il y a de l'espoir encore que des gens » sortent de on peut dire, ces sectes ou de ces faux docteurs, des griffes des faux docteurs, pour aller vers la saine doctrine. Mais c'est du boulot, c'est du temps, et puis c'est l'effort aussi de l'autre, d'accepter la vérité. Le bon ministre, donc, combat armé de la piété, et pas avec une épée, hein, c'est autre chose, la piété, et aussi avec la doctrine pour conduire dans la vérité. Je ne peux pas aider quelqu'un qui est perdu dans les fausses doctrines si moi-même je ne connais pas la bonne doctrine. Je peux le perdre encore plus. Ça serait pas sympa. Et puis, il nous dit une troisième chose, c'est cet enseignement de la saine doctrine. Hein. Alors d'abord, toujours pour Timothée, il a l'obligation d'enseigner la saine doctrine. Déclare et enseigne, dit Paul. Hein. Et quel que soit ton âge, parce que là, on sait que Timothée avait un peu plus de 30 ans. Alors, plus de 30 ans, c'est pas tellement jeune aujourd'hui. Hein. On est vieux à 30 ans, hein, déjà. Non, ça va. Bon. Mais il faut se remettre un peu dans la culture aussi et comprendre une chose, c'est que le jeune, à l'époque, devait faire un peu ses preuves devant les plus anciens. Il y avait un respect hein, par rapport à eux. Il devait démontrer quelque chose par rapport aux gens qui étaient plus âgés. Moi, je suis encore un peu dans cette mentalité. J'ai beaucoup de respect pour les plus anciens, même s'ils sont dans l'erreur des fois. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dégage complètement. Hein. Quel que soit l'âge, on s'en fiche. Il y a une petite valeur, là, je trouve. Alors, je ne vais pas en faire un dogme non plus. Hein. Mais il devait, lui, à ce moment-là, prouver quelque chose à ces personnes qui étaient plus âgées. Et c'était dans le respect de la parole de Dieu, dans son attitude, dans cette vie pratique, qu'il allait prouver qu'il était Timothée, le pasteur, etc., de l'Église. Je pense que c'est toujours valable aujourd'hui. Et chacun d'entre nous, on doit avoir un respect pour le prochain déjà, Mais pour les plus anciens, moi aussi, je pense qu'il faudrait l'avoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont toute la vérité. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup ce respect qu'on a des anciens. C'est peut-être parce que je deviens vieux. J'attends peut-être qu'on me respecte, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous rigolez quand je dis que je suis vieux, là, déjà hein. Il doit être un modèle pour les fidèles. Un modèle d'abord en parole. C'est une langue qui est en harmonie avec sa foi et en même temps qui édifie autrui. Et il dit des choses, mais il le vit aussi. Et en même temps, quand il parle, il a envie pas parler pour rien, il a envie vraiment d'instruire son prochain, à condition de l'écoute, évidemment. Donc tout ça, ça vient évidemment de sa vie spirituelle, ça vient de sa lecture de la Bible, ça vient de sa vie de prière, automatiquement. Il doit être un modèle en conduite, dans son comportement, avec une apparence, mais qui ne discrédite pas Christ. Donc on n'est pas en train de parler d'un comportement parfait, parce qu'il n'y a aucun pasteur qui est parfait. Ça s'en fout non plus, vous n'êtes pas parfait. Mais à condition que ça ne discrédite pas Christ. C'est-à-dire qu'il ne va pas voler, il ne va pas être adultère, etc. On est bien d'accord. Il doit être un modèle en amour. Une charité qui motive sa conduite et qui poursuit ses buts aussi. Il doit aimer tout le monde. D'autant plus le pasteur est appelé à aimer vraiment tout le monde, quel qu'il soit. Dans toutes les situations possibles et inimaginables. Pour vous, ça ne vous parle pas, mais pour moi, ça me parle. Parce qu'il y a des situations, des fois, que j'ai vécues, il faut vraiment aimer, beaucoup aimer. En foi aussi, être un modèle en foi, on rejoint un peu ce que font les faux docteurs, il doit être un modèle dans une foi ferme, qui est basée sur la saine doctrine et qui ne va pas abandonner. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que ça va être toujours comme ça. Il y a des moments de profond découragement chez certains, il y en a même qui lâchent carrément, parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est pas simple. Mais c'est valable pour le chrétien basique aussi. Chacun d'entre nous, à un moment, on peut avoir des coups de blues, on pourrait dire, et abandonner un peu cette foi. Mais le Seigneur est là, heureusement, et reprend les choses. Mais l'Église aussi doit, normalement, entourer ces personnes et les aider. Et puis, être un modèle aussi en pureté. Alors, la pureté dont on parle là, c'est la véritable selon Dieu, et non pas celle dont on parlait tout à l'heure, l'ascétisme ou celle des faux docteurs. Il y a une pureté selon Dieu, il faut aller voir dans la Bible ce qu'il dit de la pureté. C'est pas se faire des choses, se couper la peau, ou je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait se faire pour montrer qu'on a plus de spiritualité. C'est faire ce que Dieu me demande, tout simplement. Il doit s'appliquer à dispenser la saine doctrine. C'est ce que je fais ce matin. Voilà, tant pis, j'ai pas le choix. Il doit s'appliquer à dispenser la saine doctrine. Pour cela, il doit faire la lecture de la parole, évidemment, mais il doit faire la lecture personnelle, et ensuite, il doit être capable de l'expliquer. Parce qu'il y a des passages, des fois, qui ne sont pas simples. Et il doit avoir le temps de se former, d'avoir de la connaissance pour pouvoir partager aux autres. Mais je vais pousser le truc un peu plus loin. Ce n'est pas que le pasteur, normalement. Chacun d'entre nous, on devrait quand même avoir un peu plus de connaissances chaque année de qui est mon Dieu, de qui est Jésus-Christ, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi... qu'est-ce que font les anges, par exemple, dans ce monde ? Il y a des anges. Vous savez qu'il y avait des anges ? Vous avez déjà vu un ? Rassurez-moi. Mais voilà, nous-mêmes, on est appelés à avoir un peu plus de connaissances de la parole de Dieu. Mais lui, évidemment, doit l'enseigner, doit l'expliquer, doit la défendre. Il doit aussi exhorter, c'est consoler, encourager, insister. Le mot est aussi là, insister dans cette consolation, mais aussi dans la dispensation de la saine doctrine. Il doit enseigner, c'est-à-dire la doctrine et les préceptes, parce que les deux sont liés. Si un jour vous me dites « Ah, mais qu'est-ce que je dois faire dans une situation ?» Je ne vais pas vous dire ce que je pense sentimentalement. Je vais vous prendre un verset, s'il existe déjà, ou un principe biblique, et vous dire « Voilà comment Dieu veut que vous réagissiez. » Ce n'est pas sur les sentiments que je vais vous donner une réponse, c'est sur la parole de Dieu. Et donc, doctrine et précepte, ou vie pratique, sont complètement liés. Si vous n'aimez pas la doctrine, laissez tomber la vie chrétienne. Ce n'est pas la peine d'essayer de marcher. Alors, le mot doctrine, ça fait toujours peur, je sais, mais... Il y a des doctrines simples, il y a des doctrines un peu plus compliquées. Mais commençons par la simple. Il doit absolument enseigner l'Église. C'est son rôle, et c'est ce que dit Paul, là. Enseigne l'Église parce qu'ils sont prompts à être enlevés par les faux docteurs, etc. Mais moi, j'inverse maintenant. Mais si l'Église n'est pas là pour être enseignée, comment il fait ? Ça ne marche pas. Et bien souvent, on n'est pas là. Donc en fait, le travail que lui doit faire ne peut se faire que si l'Église est là. Sinon, ça ne sert à rien. Vous savez, il prend du temps des fois à faire des messages, là je parle pour tout le monde, il prend beaucoup de temps et bien souvent il y a peu de personnes qui sont là pour ça. C'est quand même triste, il pourrait faire autre chose. Mais s'il doit enseigner l'Église, il doit dire aussi à l'Église d'être présente pour pouvoir être enseignée. Sinon, vous risquez d'être emporté à tout vent de doctrine. Il doit mettre son don en action. Un don à ne pas... Alors, il en a plusieurs, lui, des dons. Mais il le résume dans ce don à ne pas négliger. Alors, on se demande pourquoi Paul lui dit ça. Alors, certainement qu'il avait peut-être des pressions extérieures. Il y avait ses faux docteurs qui étaient là. Et donc, à cause de ces faux docteurs, il devait se mettre au travail pour enseigner la saine doctrine. Il y en a qui pensent que, à force, il en avait marre et qu'il a envie de... taillot, parce que des fois, on a envie de démissionner. Ah, si on pouvait le faire, c'est bien. Moi, je ne sais pas où, à Hawaï, sur la plage, plus de problèmes. Non, c'est bien, ça. Non, ah bon. Vous ne pouvez pas me payer le voyage, c'est dommage. Alors lui, oui, c'est toujours valable aujourd'hui. Les faux docteurs qui sont là, et peut-être lui-même, il avait des combats. Il était, je crois, célibataire à ce moment-là aussi. Donc il y avait d'autres formes de combats aussi. Mais il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Ou les dons, on pourrait dire, parce qu'il avait celui d'enseigner, il avait celui d'être évangéliste, il avait celui d'être un leadership, quelqu'un qui mène le troupeau. Et il dit, ce don a été prouvé par plusieurs choses. Ça rejoint un peu l'autoproclamation que j'avais dit il y a 2 semaines, je crois, sur les anciens et sur les pasteurs, qu'on ne s'autoproclame pas pasteur. Je ne décide pas à un moment, c'est moi le berger. Et on va voir comment lui, il a été appelé. Alors première chose, quand on lit, c'est un don qui a été donné par prophétie et qui a été confirmé publiquement par révélation divine. Vous pouvez lire ça en 1 Timothée 1, 18. Alors ça, c'était une époque particulière aussi, n'oublions pas. Aujourd'hui, on a la parole, on n'a plus de révélation divine. Dieu ne vous parle plus directement ou par SMS. Ça ne marche pas. On a tout dans la Bible. Aujourd'hui, si quelqu'un est appelé, c'est par la providence de Dieu. Et Dieu va mettre le désir dans la personne et va mettre aussi les moyens pour que quelqu'un puisse accéder au ministère de pasteur. Je vais expliquer un jour comment Dieu a fait avec moi. Il m'a cassé le dos. Pas sympa, Mais bon, c'est autre chose. Donc lui, ça a été confirmé publiquement. C'est pas lui qui a dit à Timothée, « Ah tiens, j'ai envie d'être pasteur. » Ça a été reconnu par l'Assemblée. Puis une deuxième chose, l'appel est confirmé par l'Église et mis en marche par l'imposition des mains des anciens. Alors l'imposition des mains, alors vous voyez tout ce que vous voulez aujourd'hui. D'abord, il a dit ne te précipite surtout pas à imposer les mains. Surtout si tu es avec un démoniaque, moi je ne poserai même pas la main dessus. Mais en fait, l'imposition des mains est plutôt une identification avec le ministre, avec ce ministre qui est en train de se mettre en marche. Je me souviens qu'on m'avait imposé les mains quand j'ai pris mon rôle de pasteur. On s'identifiait tout simplement dans le travail qui allait être fait. C'est pareil pour Paul, si je me souviens, et Barnabas, avant de partir en mission, les anciens avaient imposé les mains. Dire, on est d'accord avec vous, on va prier pour vous, mais il n'y a rien qui se passe quand vous vous imposez les mains. Parce qu'on voit beaucoup de choses aujourd'hui, des guérisons et autre chose, mais ça, c'est pas de Dieu. C'est loin d'être Dieu. Si vous êtes malade, prenez des médicaments, ça marche aussi. Donc, encore une fois, Timothée ne s'est pas autoproclamé. L'Assemblée était d'accord, les anciens étaient d'accord avec lui, et c'est eux qui l'ont propulsé dans son ministère. MacArthur dit toujours, « L'appel du jeune pasteur au ministère ainsi a été confirmé subjectivement par son don spirituel, objectivement par son appel prophétique, et collectivement par l'assentiment de l'Église. » Donc, le gars qui se proclame tout seul pasteur, je crois qu'il est loin d'être biblique, on est bien d'accord. Mais Dieu est bon, en fait. Je ne sais pas si on y réfléchit un peu. Il ne veut pas mettre n'importe qui devant. Il prend le temps pour former la personne, pour que tout le monde soit d'accord. Et en même temps, je pense que tout le monde l'encourage dans son ministère. Au début, on le fait. Après, on le lâche bien souvent. Mais bon. Il n'est pas venu comme ça par hasard. Et Paul lui rappelle justement... Parce que des fois, on peut se dire... Oh, est-ce que je suis vraiment pasteur? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Ça arrive. Il y a des moments où on peut se poser la question. Mais Paul dit à Timothée, rappelle-toi. Ce n'est pas toi qui as décidé, c'est Dieu, et tu as eu l'assentiment de toute l'Assemblée qui était d'accord. Et ça, c'est un puissant aide, on va dire, dans les moments de doute. C'est valable aussi pour vous en tant que chrétien, on peut le voir autrement. Quand vous avez des doutes dans votre vie, vous êtes sauvé, vous êtes enfant de Dieu, non ? Ça vous réjouit ? Moi, vous allez bientôt rejoindre le Seigneur, le plus tard possible, j'espère. Mais vous avez un avenir et une espérance, c'est formidable, non ? C'est exactement pour ce jeune pasteur. À ce moment-là, il avait besoin d'avoir des garanties. Et quand on a ces garanties, quand quelqu'un va dire « Ah, mais toi, qui prouve que tu es pasteur ?» Regarde, il y a toute l'Assemblée là qui est d'accord avec. Vous voyez l'idée ? Donc, il rebooste, on pourrait dire, un peu ce Timothée qui certainement est en train de se poser des questions. L'appel au ministère, c'est tout un processus. C'est une usine à gaz, on pourrait dire, de cette manière-là. Et il dit « Veille sur toi-même et sur les enseignements. » Persévère dans ces choses. Parce que la saine doctrine a un impact positif sur soi d'abord, forcément, parce que si je l'apprends, je veux la vivre et ça me faire du bien, mais aussi sur autrui. Et c'est à ça qu'on voit si on dispense la vérité. Il y a des églises avec des milliers de personnes, je l'ai déjà dit. Mais ça rentre et ça sort aussitôt. Moi, je ne veux pas d'une église qui rentre et qui sort. Je veux d'une église où on rentre et on reste. On devient des disciples, où on marche avec le Seigneur et qu'on va jusqu'au bout. Hein, ce n'est pas une histoire de nombre. Le nombre, je m'en fiche complètement. C'est entre les mains de Dieu. Mais si c'est pour faire juste venir et repartir les gens, je loupe ma mission, en fait. Ce n'est pas ça, l'idée. Et pour ça, évidemment, il faut enseigner, persévérer. Et il dit, Paul, à Timothée, tu te sauveras toi-même. Parce que toi-même, d'abord, tu vas démontrer ta foi par le travail que tu vas faire en persévérant dans la sainte doctrine. Il était déjà sauvé, évidemment, mais démontre ce salut. Si je suis sauvé, c'est Hébreux qui dit ça, montre-moi tes œuvres si tu es vraiment sauvé. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu ne vas pas travailler pour le Seigneur, tu ne vas pas le suivre, forcément. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui écoutent aussi. Alors, là, il y a leur choix aussi. Mais si je dispense la saine doctrine, forcément, et la vérité, ça peut qu'avoir un impact sur quelqu'un. Si vous lui dites « Donnez-moi de l'argent et tu seras sauvé », vous, vous êtes riche, par contre. J'aimerais bien, des fois, pouvoir faire ça, avoir le culot de faire ça. Mais ça ne va pas le sauver. Par contre, si vous lui dites « Vous êtes pécheur et vous avez besoin de vous repentir », alors ça plaît déjà moins. Mais là, vous êtes dans la saine doctrine. Et là, ça va être peut-être à salut. Donc la dispense de cette saine doctrine ne peut qu'avoir de bons effets en pratique et même parfois à salut. Et quand le pasteur dit « on va faire de la doctrine aujourd'hui », plutôt que froncer les sourcils, en fait « ouais, on va apprendre des choses nouvelles, on va consolider notre foi ».« Ah mais oui, mais l'autre avait dit ça, mais ça ne ressemble pas à ce qu'il est en train de dire, etc. » Alors vous avez le droit aussi de me reprendre, hein, parce que je vous dispense la saine doctrine, mais si je dis une bêtise, vous venez me voir, n'est-ce pas? Faut oser, hein. Pour terminer, donc, ce Timothée, hein, Paul dit à Timothée de protéger le troupeau. Il ne dit pas de le cajoler, il ne dit pas seulement d'avoir que de l'amour avec ce troupeau. Il dit surtout enseigne-le, prends le temps de l'enseigner. Et ça, ça démontre plusieurs choses. C'est que la vie pratique a besoin d'enseignement. C'est comme le plan tout à l'heure. Si je veux voir une vie pratique chrétienne saine et selon Dieu, il faut que j'ai le plan. Et des fois, j'ai le plan, mais je ne comprends pas forcément tout le plan. Parce qu'il faut du temps pour l'étudier. Et donc forcément, j'ai besoin d'être enseigné ce plan dans ma vie pour pouvoir le mettre en pratique. Sinon, ben, je vais faire un peu ce que j'ai envie dans ma vie. Et puis là, le diable va surtout faire des choses, c'est qu'il va vous ramener plein de faux docteurs pour vous perdre complètement là-dedans. Il est au boulot tout le temps, le diable. Hein. Faut pas croire. Hein. Deuxième chose, pourquoi être enseigné comme cela? Parce qu'il faut réaliser notre fragilité et l'amour du facile. Si la Bible pouvait avoir 3 pages seulement, je serais fier de dire « je l'ai lu 10 fois cette semaine ». 10 fois, j'ai lu la Bible en entier. Ce serait mieux 3 pages, non? Non? Vous préférez les 1000, je ne sais pas combien, là? Ça serait plus simple, on apprendrait plus vite, on saurait tout le message de Dieu d'un seul coup. Et on est tous d'accord que la facilité, c'est vers là où on va le plus souvent. On ne prend pas un passage compliqué en se disant « aujourd'hui, je vais ouvrir tous les commentaires, je vais voir ce que disent les commentaires, étudier, faire une synthèse de tout ça et avoir une conviction au bout ». C'est du boulot, hein? Ça demande 2-3 heures environ, minimum. Et ça, c'est pour un passage simple, on va dire. Mais on va vers le facile, et il faut reconnaître que là, il y a une fragilité dans le cœur du chrétien. Le Seigneur ne veut pas qu'on aille vers le facile. Il veut qu'on étudie la Bible. Je ne sais pas si vous imaginez que pendant des siècles, il a permis que des gens écrivent, il a permis qu'ils rassemblent tout ça, il a préservé la parole de Dieu pour se dire à la fin aux chrétiens, « Oh, la lisez pas, hein. J'ai fait tellement d'efforts pour que vous ne la lisiez pas. Vous me faites ça un jour à moi, vous verrez comme je ne serai pas content. » Donc, ne cédons pas à la facilité et prenons le temps d'étudier la Bible, et ça se fait aussi à l'Église, cette étude de la Bible. Et une troisième chose, sans la saine doctrine, on l'a dit, hein, c'est facile de s'égarer très vite. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, c'est encore plus simple. Vous savez, sur les 100% d'Internet qu'on voit, je pense qu'il y a 80% qui sont faux. Je suis désolé de le dire, hein. 80% si c'est pas plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, parce que c'est bien de confronter sa foi des fois et de voir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'il pense. Mais honnêtement, ce n'est pas sur Internet qu'on apprend. Hein. Enfin, en tout cas, la Bible ne dit pas aller sur Internet. Il dit à ce pasteur-là d'enseigner son Église, dans l'Église, pas sur Internet, hein, dans l'Église. Parce qu'au fond, il y a aussi la communion fraternelle, il y a le partage. Et si je veux donner mon amour, comme on a dit tout à l'heure à mon prochain sur Internet, sur Facebook, je t'aime. Ouais, me dites surtout pas ça, hein, moi j'y crois pas. Par contre, si vous venez me voir et vous priez avec moi, là, je veux dire, ah là, vous démontrez votre amour pour moi. On se comprend bien. Enfin, continuez à liker, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais bon. Donc, ce passage nous apprend à vivre la saine doctrine, parce que Paul est en train de dire à l'église de Timothée, c'est tout simplement pour votre bien. C'est pour votre bien, la saine doctrine. C'est non seulement pour votre bien, mais c'est aussi pour votre stabilité en tant que chrétien. Et vous savez que si vous mettez tout ça en pratique, la saine doctrine, vous l'étudiez, vous la mettez en pratique, vous savez à qui vous faites plaisir ? À Dieu. À moi aussi, mais à Dieu d'abord. C'est lui qui mérite la première chose. Alors vous avez envie de faire plaisir à Dieu ? Un petit peu ? Passionnément ? À la folie, allez. À la folie. On va prier. Oui, Seigneur, tu vois, les intentions de nos cœurs sont toujours grands et ont toujours le désir d'aller là où toi tu veux, mais tu nous connais aussi et le quotidien nous rattrape bien souvent et nous perdons de l'élan, nous perdons du zèle et les problèmes arrivent et finalement nous n'allons pas vers cette saine doctrine, nous ne prenons pas le temps de l'étudier, nous ne prenons pas le temps d'aller à l'église, de partager avec des frères et des sœurs et finalement faisons happer à un moment par le diable et il déstabilise notre vie, il met là des doutes, nous enseigne même des fausses choses et on croit être plus spirituel. Seigneur, je te prie de faire le bilan en chacun d'entre nous ce matin et pour moi-même aussi, de voir où on s'égare, de montrer peut-être que nous sommes paresseux parfois, fragiles dans ce domaine et donne-nous surtout l'envie maintenant de nous mettre en marche, d'apprendre à apprécier ta parole, apprendre à apprécier ta doctrine. Cette doctrine qui finalement va m'aider dans ma vie quotidienne et pour avoir une vie chrétienne épanouie, une vie pratique selon ce que toi tu veux et surtout à ta gloire. Seigneur, c'est un défi, c'est de l'effort, mais c'est ce que tu nous demandes, Seigneur, au travers de cet épître. Je te prie de bénir chacun dans ce domaine-là encore, en Jésus-Christ. Amen. Amen.